Les voix du livre. Une émission proposée par Éline Séjot de la librairie du Cyprès Jean de la Lune à Nevers et Claire Garand, biographe chez mémorialiste.fr. Vous êtes bien sur BAC FM. Bonjour Éline.
Bonjour Claire.
Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour cette première émission Valérie Rouzeau, poète, lectrice et traductrice et enchanteresse de notre monde qui en a bien besoin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous recevoir dans les studios de BAC FM. N'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission. Vous êtes notre invitée et nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Et il y aura sans doute matière à réaction, puisqu'il y a déjà matière à réflexion avec les choix de la librairie Le Cyprès Jean de la Lune. Alors Éline, quelles sont les lectures qui vous ont enthousiasmée et que vous voulez partager ce mois-ci avec nos auditeurs?
Alors pour une première, j'ai choisi d'aller dans la simplicité avec L'école des soignantes, qui est le dernier roman de Martin Winkler, qui est paru début mars aux éditions POL. Alors donc ici, Martin Winkler, donc médecin, fervent militant féministe, continue son travail de recherche romanesque sur l'éthique de soins, qu'il a commencé avec La maladie de Saxe, qu'il a fait connaître au grand public, et continue ensuite dans Le cœur des femmes.
Ça a été un très très grand succès,
la maladie de Saxe. Tout à fait, il a vraiment fait connaître vraiment au grand public. Et je vous parle de cette lecture parce qu'elle était pour moi tout à fait déroutante et un vrai coup de fouet salutaire en ces temps plutôt moroses, puisqu'il pose des questions d'actualité assez brûlantes, comme la place de la femme dans la société, dans le système de soins, l'euthanasie, le genre. Je vous rassure, c'est un roman vraiment optimiste, hein. Je tiens à le préciser.
Donc ce n'est pas un essai, mais bien un roman.
C'est bien un roman. Et c'est grâce à la trame romanesque que l'on arrive à justement suivre son propos. Et là où l'effort est percutant, c'est que plutôt que de pointer du doigt des dérives, des pratiques actuelles, Martin Winkler propose une vision humaniste de la société par le prisme d'un hôpital utopique.
Ah oui, donc c'est une démarche active.
Tout à fait. C'est presque, on est entre le roman et le manifeste. Pour vous situer un peu le récit, en 2022, une liste citoyenne a gagné la mairie de Tourmente, qui est cette petite ville qui revient toujours dans l'œuvre de Martin Winkler. Et le député maire de cette ville a, par le biais d'un amendement, puis obtenir à titre expérimental la création d'une région sanitaire autonome.
Oh là là, oui, effectivement, voilà. Tout un programme.
Ah oui, oui, non, mais vraiment, on est vraiment pris dès les premières pages tellement ça nous semble réalisable à court terme.
Ben oui, 2022, c'est demain.
C'est demain. Donc en gros, ce que cela veut dire, c'est que toutes les institutions publiques de santé qui sont présentes sur ce territoire ne dépendent plus des ministères, mais uniquement de la région. Et le cœur de ce système, c'est vraiment l'hôpital et l'école de soins qui y est rattachée, qui se veulent des lieux holistiques, féministe, communautaire et éco-conscient. Donc c'est quand même un sacré programme.
C'est pas un peu chargé.
C'est Martin Winkler en même temps, hein, on s'y attendait. Et donc, oui. Il nous décrit vraiment ce système. En pratique, il y a moins d'examens médicaux, plus de soutien social et vraiment l'écoute de la femme, puisque, comme le dit Martin Winkler, lui, en tant que médecin campagne, soignait à peu près 70% de femmes dans son cabinet. Donc écouter la femme et prendre le corps de la femme comme base dans l'enseignement médical. Et non plus celui de l'homme comme référence. Donc vraiment, il faut vraiment une refonte totale de tout ce que l'on connaît.
Oui, effectivement, il a beaucoup planché sur la question.
Il n'y a plus de hiérarchie non plus entre les médecins ou les soignants. C'est vraiment, on passe de la verticalité à l'horizontalité totale. Et tous les noms, sont féminisés. Soignante, patiente, quel que soit le sexe de l'individu, c'est au féminin. Il y a un hommage rendu à des grandes autrices comme Butler ou Marguerite Atwood. Il y a de la science-fiction. Enfin, c'est vraiment,
Est-ce que je dois comprendre que, par exemple, quand il s'agit d'un patient, on l'appelle le patient?
Tout à fait. Et ça s'appelle l'école des soignantes.
D'accord.
Alors que nous suivons, le narrateur est un homme qui s'appelle Anna.
D'accord.
Et qui est un ancien programmateur informatique qui se reconvertit, qui devient soignante dans ce lieu unique en son genre. Parce qu'il a ce don d'écouter les gens, d'avoir envie de soigner, de penser. Et c'est aussi un écrivain qui recueille tous les témoignages. Donc une écrivaine, tout à fait. C'est dur de tout inverser comme
bien
ça.
Bien sûr.
Et ça nous donne des pages absolument sublimes d'humanité sur l'amour, le deuil, le soin aussi en unité psychiatrique. Enfin, c'est vraiment superbe et c'est très engagé. Hein. Les salles d'IVG accessibles à tous, l'accompagnement en fin de vie est réglementé. Enfin, c'est vraiment... Et c'est merveilleux parce qu'on pleure, on rit, on réfléchit sur des choses qui nous semblent acquises. Et comment aller plus loin? Enfin, c'est aussi un livre pour débattre. Et qui fait un bien fou. Réellement, c'est inspirant. Je le recommande à tout le monde. Le cœur des femmes de Martin Winkler aux éditions POL. Voilà.
L'école des soignantes.
Des soignantes.
Il y avait le cœur des femmes avant.
Non, oui, ça.
Vous recommandez les deux.
Je recommande effectivement les deux et tout Martin Winkler en général. Les voix en blanc.
Moi, je note parce que je vais les lire.
Oui, je crois que ce sont des lectures qui font réfléchir, en effet, et qui sont chargées d'émotions. Merci beaucoup pour cette présentation qui réveille effectivement les neurones. C'est le monde à l'envers, c'est un monde inversé, un monde renversé. Et je crois que
tout
c'est
à fait.
D'ailleurs, vous poursuivez le renversement jusqu'à la jeunesse, puisque vous avez une autre proposition tout à fait aussi décoiffante.
Je voulais rester dans le thème, tant qu'à faire, oui. Allons-y. Oui, je vous propose un livre qui est sorti en février à l'École des loisirs, qui est écrit par Florence Inkel et illustré par Clotilde Lacroix, qui s'appelle « Renversante ». Alors, c'est une lecture conseillée à partir des 9-10 ans, à peu près. Hein. Et dans ce roman, donc Léa, une toute jeune fille, est invitée par son papa, un antisexiste, à balayer tous les domaines où les filles, les garçons, les hommes et les femmes ont des places différentes. Donc, parce que le monde de Léa et de son frère Tom repose sur un système matriarcal, dans lequel la femme est le modèle et l'homme, une déclinaison. Donc le féminin l'emporte sur le masculin. Bon, on comprend bien que ce n'est pas du tout le même escient que dans le livre de l'école des soignantes. L'éducation des enfants et les tâches domestiques reviennent uniquement aux hommes, qui sont absents de la sphère politique, littéraire, de postes à responsabilité, qui se retrouvent tout à fait dénudés dans des pubs pour faire vendre des bagnoles, qui sont représentés dans des films et soumis à la tyrannie de la jeunesse éternelle. Je pense que ça vous rappelle peut-être quelque chose. Enfin bon, une réflexion qui a mené cette petite Léa à réaliser que son monde est réellement sexiste et de se poser la question est-ce que tout ce que l'on vit ne serait pas juste une question de point de vue ? Donc c'est un texte détonnant, une belle invitation pour les plus jeunes à s'interroger sur le monde qui les entoure et les relations aux autres, je pense. Donc Renversant de Florence Inkel.
Oui, donc là on est vraiment dans un univers inversé.
Tout à fait. Et il y a vraiment un schéma très étonnant. Enfin, tous les noms sont féminisés. On ne parle plus de poète, mais de poétesse. Pas de magistrat, mais de magistrate. Donc c'est assez intéressant aussi ce jeu de mots qui revient comme voilà, parce que le mot est important.
Et donc dans ce renversement, les noms sont tous féminins par défaut.
Voilà, parce que les femmes de l'Académie française ont décidé que pour simplifier la grammaire, il fallait trouver une règle, alors que le féminin, le plus noble, allait l'emporter sur le masculin. Voilà, parce que historiquement dans ce livre, voilà, la femme porte l'enfant, donc il serait normal que l'homme prenne la relève après. Elle est tellement fatiguée. Et puis pour porter l'enfant, faire les courses, l'homme est plus fort. Donc ça paraît tellement plus logique qu'il reste à la maison. Donc il y a vraiment voilà. Pour eux, dans ce livre, depuis la nuit des temps, ce système fonctionne comme cela. Et c'est ça qui est intéressant, vraiment. Il y a une frise chronologique qui est très intéressante, puisque c'est vraiment très, très ludique. C'est très bien fait, très bien écrit.
Et ça fait réfléchir dès le plus jeune âge les catégories de genre et surtout aussi sur les relations de pouvoir, finalement.
C'est exactement ça. Il faut accompagner l'enfant. Je pense qu'avec le parent, il peut y avoir un vrai débat, une vraie conversation à mettre en place autour de ce livre.
Eh bien, ça promet des soirées animées.
Tout à fait.
Donc, pour rester dans l'animation, Valérie Rousseau, vous nous avez proposé des choix musicaux très printaniers, très dansants, très gais, pour nous donner envie de revivre après un hiver un petit peu long. Donc, votre premier extrait, le premier extrait que vous nous proposez.
Alors, ce serait Carlton Rara, My Enemy.
Merci beaucoup. Nous écoutons donc Carlton Rara, My Enemy, et contrairement à ce que le titre pourrait laisser penser, vous allez voir, c'est très enjoué. Please.
save my life for a while, for a night. Chop and pram, dap and pop and pram, chop and boom, tap and chop and pram, chop and chop and pram, dap and jam, but dap and pop and pram, not and jam, dap and pop and wop and pram, boom, chop and pram, wop and jam, wop and pram, tap and chop and bow, what a chump, dump.
Nous sommes de retour dans les voies du livre après Carlton Rara qui nous a redonné la pêche.
Et merci Valérie pour ce choix.
Oui, tout de suite, on sent que le printemps est déjà de retour. Alors, le printemps est très agité en effet puisque nous avons une très belle actualité littéraire sur le mois d'avril. D'abord, dans la Nièvre, dès le 30 mars, à l'espace Stéphane Hessel, une conférence débat sur l'état du monde et la situation des minorités avec le politiste Bertrand Badi. La Maison de la Presse sera présente pour vendre les ouvrages de Bertrand Badi et en particulier « Le retour des populismes » et « Quand le Sud réinvente le monde ». Le dimanche 31 mars à 9h30 à la salle polyvalente de Saint-Éloi, la deuxième édition du Salon du Livre ouvrira ses portes, donc avec plus de 35 auteurs régionaux à découvrir ou à redécouvrir. L'entrée est gratuite, donc jusqu'à 18h30. Le 2 avril, le Festival Tandem nous propose son chapitre 3, le Festival Tandem qui donc est désormais biennal et qui, entre deux temps forts, ouvre des chapitres variés et très riches pour tous les âges. Donc celui-ci est pour les adultes, Catherine Cusset et Florent Marchais, à l'auditorium de la médiathèque Jean Jaurès, avec l'autre qu'on adorait, donc une lecture musicale à ne pas manquer.
Et
avec dédicace, voilà. Exactement, tout à fait. Il faut le noter. Il faut veiller. Donc dédicace à la fin du spectacle et vente des ouvrages, bien sûr. À Fourchambault, du 9 au 14 avril, le Festival Temps de Parole proposera un stand dans l'espace librairie qui sera tenu par la FNAC de Nevers. Donc avec des livres, CD, DVD disponibles à l'achat directement sur place. Toujours à la FNAC, le samedi 13 avril de 14h à 18h, Stéphanie Bilbo, qui est une autrice de romans, notamment Le Vrai, Numéro et La Deuxième Chance de Jeanne, dédicacera ses ouvrages, donc à la FNAC de Nevers. Le 20 avril, bien sûr, un événement dans le quartier Saint-Arigle et dans toute la Nièvre,
ah oui.
L'inauguration de la librairie rénovée Jean de la Lune, donc toute la journée, et cette inauguration sera aussi le prélude à tout un cycle de rencontres avec un certain nombre d'auteurs pendant le mois qui suivra. Le 24 avril, mercredi 24 avril de 15h à 17h, la FNAC de Nevers présentera une sélection de bandes dessinées et de mangas pour les 8-11 ans, donc possibilité d'acheter toutes les BD et les mangas présentés sur place, dans le cadre de l'exposition de bandes dessinées Les Carnets de Cerise. Donc c'est une série de bandes dessinées, ce sont des enquêtes que mène Cerise, puisque c'est le prénom de l'héroïne. C'est très bien fait par Joris Jeanblin et Aurélie Néret, donc c'est à la FNAC de Nevers. Et l'exposition Les Carnets de Cerises aura lieu à la médiathèque de Fourchambault. Et enfin, le samedi 27 avril, de 10h à 19h à la FNAC, une dédicace d'Éric Clément, qui est l'auteur du livre autobiographique. Vous savez que j'ai toujours une fibre biographique développée. L'auteur du livre autobiographique « Le marathon de la vie », qui raconte la manière dont le marathon l'a aidé à mieux vivre son handicap. Et il y aura aussi, mais à une date qui n'est pas encore définie, le Cyprès. Éline, je parle sous votre contrôle. Le Cyprès accueillera Béatrice Rodriguez pour la philosophie Koala.
Voilà.
À une date à définir. Ce
sera une des premières invitées, effectivement, de Jean de la Lune. Nouveau look.
Nouveau look, nouvelle génération.
Tout à fait.
Encore plus beau qu'avant, c'est dire.
N'est-ce pas?
Et j'en profite justement pour parler donc des sorties de ce mois-ci. Vraiment, on a un très très beau mois d'avril. La première sortie, c'est justement la bande dessinée de Béatrice Rodriguez qui s'appelle La philosophie koala, qui est une bande dessinée que je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de voir. Je n'ai pu regarder que quelques planches qui étaient disponibles pour les personnes qui voulaient avoir un extrait. Donc, ça a l'air très délicat, très drôle, avec des petits personnages attachants. Vous l'avez lu, Éline ?
Je l'ai vu, effectivement. Et il y a toujours ce dessin très, très délicat qu'on retrouve chez Béatrice Rodriguez. C'est oui, très beau.
Exactement. Et alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, l'air de rien, visiblement, on aborde des thématiques très profondes. Alors, je ne les ai pas lues, mais il y en a une qui ne doit pas vous laisser indifférente, Éline. Comment fait-on pour porter une robe quand on est un garçon ? Je pense que ça va tout à fait dans la lignée de ce que vous avez évoqué précédemment, mais il y a aussi d'autres questions, comme pourquoi le temps est précieux, qu'est-ce que la compassion ? Alors moi, ça me fait envie, je ne l'ai pas lu, mais je pense que ça gagne à l'être.
Je mettrai un côté, Claire.
Oh, merci, c'est gentil. J'apprécie cette attention. Également, aux éditions du Chemin de Fer, paraît Indéo de Nancy Houston est illustré par Guy Auberson, donc le 4 avril. Donc là encore, je n'ai pu lire que les premières pages, mais alors ça a l'air extraordinaire. Donc il s'agit des premiers contacts entre les conquérants espagnols et les Amérindiens donc du Nouveau Monde, avec une langue tout en très directe, très très forte. On sent la puissance des mots, une forme un peu presque incantatoire, avec la vision de chacun, la vision des deux, et des aquarelles et des pierres noires de Guy Auberson. Franchement, celles que j'ai vues sont également très fortes et inspirantes au regard du texte. Donc une parution aux éditions du Chemin de Fer, Indéo. Également une autre parution encore aux éditions du Chemin de Fer, Les Nouvelles de prison d'Albertine Sarrazin. Bon, tout le monde connaît Albertine Sarrazin, La Cavale, L'Astragale, qui sont deux romans autobiographiques qui ont fait sa renommée, mais on connaît moins les nouvelles qu'elle a écrites, qui puisent toujours aux sources de l'autobiographie, hein, bien sûr, mais qui, cette fois-ci, révèle plutôt le regard qu'elle porte sur les conditions de son incarcération, sur cet univers qui, évidemment, lui était étranger et qui a été le sien pendant 8 ans. Donc, quelque chose encore de tout à fait profond et décrit, bien sûr, avec l'écriture d'Albertine Sarrazin. Voilà donc une actualité qui est très riche et qui nous transporte de différentes manières, par les mots, par les images, hein, que ce soit les illustrations des nouvelles au Chemin de Fer ou la bande dessinée de Béatrice Rodriguez. Valérie Rouzeau, vous, votre actualité, vous êtes bientôt au Festival de Binic.
Oui, le week-end prochain, je serai aux Escales de Binic. Je vais retrouver d'ailleurs quelques amis poètes. Camille Loivier, qui est née à Nevers. Il y aura Grand Frère Waouh. Alors, il s'appelle Bernard Bretonnière dans la vraie vie, mais je cherchais son numéro de téléphone et au lieu de l'avoir recopié dans mon calepin en B, je l'avais mis en G. Je retrouvais plus le numéro d'un de mes meilleurs amis. Et autres écrivains, voilà, il y aura du monde, il y aura de la poésie et de la littérature en général, la poésie en particulier, je crois.
Et il y aura vous.
Oui, en fait, je suis censée y être, je suis invitée, j'ai mes billets de train. Bon.
Voilà. Donc, si vous voulez retrouver Valérie Rouzeau en chair et en os, il faudra aller à Binic, sinon vous pouvez écouter la suite de l'émission. Nous allons donc écouter avant le deuxième morceau que vous nous avez choisi, toujours sur le printemps. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Spring Uptime, c'est le printemps qui s'éveille, par Lotte Lenya.
On écoute le printemps qui s'éveille.
Yesterday morning I did see blossoms on the apple tree. I took a breath and thought, could it be? It's green up time. Then I began to look around, and in every field I found greens were pushing up through the ground for green up time. And sure enough, bluebells tinkled, April in the glen. And sure enough, I fell in love with love again. Then I started feeling awful bright, had a thought that hit me right. I'll have my honey dance me tonight and have a time. come in the green up time.
Here's news, the greatest news that you ever heard. Here's news, a wonderful event has occurred.
Can't you see it everywhere?
Can't you see it everywhere?
Can't you smell it in the air?
Can't you smell it in the air?
Yesterday morning I did see blossoms on the apple tree. I took a breath and thought, could it be?
It's green up time. Then I began to look around, and in every field I found greens were a pushing through the ground for green up time.
And sure enough, the bluebells tinkle, April in the glen. And sure enough, I fell in love with love again. Then I started feeling awful bright, had a thought that hit me right. I'll have my honey dance me tonight and have a time to welcome in the green up time. To welcome in the green up time.
Green up time.
Green up time.
Eh bien, je crois que le printemps s'est réveillé, nous a réveillé aussi. Alors, c'est également, c'est un peu inattendu, enfin pour moi en tout cas. Je dois dire qu'effectivement, ça remet en forme et on a envie d'aller se rouler dans les pâquerettes.
Oui, ça bon,
allons-y,
ça donne...
on pose les casques, on y va.
Ça donne de l'énergie et je me souviens très bien que c'est Jean-Baptiste Parra qui m'a offert ce disque. Il y a des années de ça, Jean-Baptiste est la personne, le poète, le traducteur qui dirige la revue Europe, pour le situer littérairement.
Oui.
Et dans la vie, c'est un ami.
Eh bien, je pense qu'il a bien fait de vous faire connaître cette musique qui nous transporte au-delà des saisons et du temps. Alors, Valérie Rouzeau, vous êtes aujourd'hui notre invitée dans les voies du livre. Vous êtes née dans une famille de récupérateurs du Cher, donc des écologistes avant l'heure, hein, qui triaient déjà les déchets il y a bien longtemps. C'est pas nouveau. Vous êtes poète et vous êtes également traductrice de langue anglaise. Vos deux premiers recueils édités ont été très vite remarqués. Je pense par exemple à « Pas revoir » au Des Bleus en 1999, qui a reçu le prix des découvreurs de Boulogne-sur-Mer et qui a été publié, accrochez-vous, Éline, 10 000 exemplaires pour un recueil de poésie.
C'est pas mal.
C'est rarissime. On dit toujours que la poésie, c'est confidentiel. Je crois, Valérie Rouzeau, que vous faites mentir cet adage tout à fait faux. Voilà, donc ça n'est pas n'importe quoi. Vous avez également reçu le prix Tristan Tzara pour « Va où » en 2002. Vous avez reçu le prix Apollinaire en 2012 pour votre recueil « Vrouze » et en 2015, le prix Robert Ganzo pour l'ensemble de votre œuvre.
Oui. Mon Dieu, tous ces prix.
Le palmarès.
J'ai pas tout dit parce que bon.
En plus, il y en a d'autres.
Je ne veux pas froisser votre modestie. C'est simplement pour vous situer auprès des auditeurs qui pourraient se dire que la poésie est confidentielle, comme je le disais. Mais là, je pense que vous montrez à quel point tout cela est une idée reçue. Vous avez d'ailleurs aussi écrit des paroles pour le groupe Indochine.
Oui.
Donc la poésie est vraiment partout. Et vous avez fait un choix fort. Vous n'exercez aucune activité salariée, mais vous tâchez de vivre en poésie via la traduction, les lectures publiques et les ateliers dans les établissements scolaires, ce qui est un choix assez audacieux quand on voit les difficultés des auteurs aujourd'hui et toutes les revendications qu'il y a concernant leur rémunération. Vous souhaitiez dédier cette émission à une personne qui vous est très chère.
Oui. Je souhaite dédier cette émission à mon ami, mon frère, le poète Antoine Aymaz, qui nous a quittés le 3 mars.
Vous pouvez nous dire quelques mots sur lui ?
C'est Antoine, c'est comme... J'ai ma famille biologique, comme tout un chacun, et j'ai ma famille poétique, et Antoine, c'est mon grand frère. Voilà, je ne peux pas le mettre au passé parce qu'il faut le temps d'encaisser la douleur et le... Là, je rentre de la semaine de la poésie de Clermont-Ferrand. On lui a rendu hommage avec Françoise Lalot. On a lu ses poèmes, on a lu des extraits de ses œuvres. Mais pour moi, Antoine ne peut pas être parti, vraiment. Alors, bon, je tiens à lui dédier et j'espère que voilà, ses amis et sa famille nous entendent.
Oui, c'est une manière de le maintenir vivant que de parler de lui et de continuer à l'évoquer. Est-ce que l'écriture est pour vous quelque chose qui participe à votre à la construction de votre personnalité?
Oh, je ne sais pas. J'ai toujours écrit, en fait. J'ai commencé à écrire au CE1 des petites piécettes pour mes frères et sœurs. Ça s'appelait des croque-moques. Croque comme on croque, et avec un trait d'union, moque comme on se moque. Tout était écrit. Moi, j'ai besoin de passer par l'écrit, même pour parler. C'est difficile de parler. Lire moins, pour moi. Et en fait, comme je suis l'aînée d'une famille nombreuse, on est 7 enfants, ce qui était bien, c'est que je pouvais jouer, tout en ayant l'œil, sur mes petits frères et sœurs, quand maman s'absentait, si elle avait besoin. Voilà. Et donc, j'avais les petites marionnettes que je fabriquais moi-même, avec des crayons de couleur pour le corps, et des balles de ping-pong pour la tête, et puis de la ficelle, du coton pour mettre pour les cheveux, enfin tout ce que je pouvais trouver sur le chantier de récupération de mon père. Et j'installais mes frères et sœurs d'un côté du canapé, j'étais de l'autre, et les textes étaient écrits, et je faisais, mais c'était interactif, c'est-à-dire que mes frères et sœurs pouvaient intervenir. Ils pouvaient pousser un cri, mais le chien pouvait aboyer, le coq pouvait chanter, et tout le monde pouvait avoir sa place, sauf les parents, bien sûr.
Bien sûr, les parents sont toujours
non, c'est pas drôle.
Oui, donc l'écriture est consubstantielle à la naissance de votre...
L'espace de liberté et de jeu. Et de... J-E-U, je veux dire.
J-E-U.
Ou alors jeu, comme l'écrivait Antoine Emaz, mon ami, mon frère qui est parti. Il écrivait jeu, J-E-U-H, trois petits points.
Ah.
À la radio, on est obligé de le dire, sinon les gens ne sauront pas
non,
ce qu'on...
Non, on n'aurait pas compris. Donc effectivement, il y a une construction différente et une hésitation.
Voilà. Et puis une fragilité, parce qu'on n'est jamais très sûr de soi. Enfin, ça dépend des gens, bien sûr. Mais Antoine était plus comme moi, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui a plus de questions que de réponses.
Alors moi, j'ai une autre question qui va s'ajouter aux autres. Vous avez parlé de la lecture. Pensez-vous qu'il faille être un grand lecteur pour être un bon auteur?
C'est pas certain. À vrai dire, je n'en sais rien parce que il faudrait étudier au coup par coup. Il faudrait entrer dans l'histoire littéraire pour voir. Mais je crois, quant à moi, qu'il faut que la lecture vient avant. Mais là, je parle de moi, de mon expérience. Même quand je suis en atelier avec les enfants, je leur parle du livre de Jean-Paul Sartre, Les mots. Il est construit en deux parties. Un, lire. Deux, écrire. Et pour moi, ça va comme ça. C'est-à-dire que la lecture va susciter un désir d'écrire ou pas, va vous aider à vivre. Moi, j'ai plus besoin de lire. Au choix, si on me disait, tu renonces à l'une des deux activités, lire ou écrire, alors je renoncerais à écrire.
Ah oui?
J'ai besoin des mots des autres. D'ailleurs, quand j'écris, je dis c'est mes mots des autres, parce que je n'arrête pas de voler des paroles, que ce soit chez les autres poètes ou de ce que j'entends dans la rue. Enfin, j'ai toujours de quoi noter sur moi et je suis une voleuse, en fait.
J'ai cru comprendre que quand vous écriviez un texte, quand vous étiez en période...
À défaut de voler. Enfin, je veux dire, comme ça, avec les ailes. C'est pas qu'on est à la radio, alors les gens, ils voient pas.
Là, il faut imaginer Valérie en train de mimer avec les mains deux ailes.
Qu'elle le fait très bien.
Oui, tout à fait. Elle va finir par s'envoler. J'ai cru comprendre que quand vous étiez en période d'écriture, vous modifiez votre bibliothèque.
Oui.
Vous pouvez nous expliquer?
C'est-à-dire que j'ai toujours tout un stock de livres qui accompagnent tel moment d'écriture. Il ne s'agit pas de projet vraiment. Hein. Il s'agit de pour le dernier, sans s'averse, c'était parler du monde tel qu'il ne va pas. Dire ces choses qui sont... Enfin, que ça passe par les bonbons qu'on vend pour que les enfants consomment, qui sont chimiquement très dangereux et pour obtenir la couleur de ces bonbons, donc on trafique la nature du produit, que ce soit le plastique, le climat, enfin. Et donc, j'ai pris tout un ensemble de livres. Par exemple, Clara Del Paz, qui est une journaliste de terrain, qui a consacré des ouvrages à la biopiraterie. Le groupe Pièces et Main-d'œuvre qui écrit des livres. Je vais juste donner des titres, c'est assez parlant. Le téléphone portable, gadget de destruction massive, ou encore Métro, boulot, chimio. Vous voyez, des livres qui m'ont donné vachement le moral pendant... Excusez-moi. Mais je fais comme ça, voilà. J'ai besoin de mon... Donc, il y a toujours... Donc, ma bibliothèque, elle bouge beaucoup, puisqu'il y a un meuble particulier pour qui est consacré aux livres que je lis pendant que j'écris.
Et voilà. Cette bibliothèque, vous la réorganisez à chaque fois que vous écrivez ?
Complètement.
Vous mettez quelque chose de différent dedans ?
Voilà.
Oui, donc effectivement, la lecture chez vous est un élément fondamental, finalement, de l'écriture. Est-ce que vous vous souvenez du premier livre que vous ayez lu ?
Oui, c'était Le Petit Chaperon Rouge, mais dans la version de Perrault. Et elle est plus
ça
dure que les
pas
autres.
Très bien.
C'est la plus dure, c'est celle où le loup, il mange vraiment le petit chaperon rouge à la fin. Il n'y a pas de festin avec le chasseur, la grand-mère et tout ça. Là, c'est dur. C'est la plus, et je m'en souviens très bien. C'était chez ma grand-mère, en plus. On ne peut pas faire mieux, mais c'était. Et je revois la couverture. C'était un grand livre carré avec la tête du petit chaperon tout rouge. Voilà. Je me souviens très bien de ça.
Cette histoire vous a traumatisée?
Elle m'a traumatisée plus tard, quand je l'ai entendue. Alors, je ne sais plus quel était le comédien qui lisait, mais quand la maîtresse nous l'a passée à l'école.
Ah oui, elle vous a
Elle m'a pas traumatisée avec ma grand-mère et mes parents. Curieusement, non. Mais ensuite, alors, quel était l'acteur? Je ne sais plus. Peut-être Aznavour.
C'était le fait d'avoir la réalité d'une voix. Ça donnait plus
de
réalité.
Il faut croire, c'est là. J'ai eu, mais je devais être au CP ou au CE1 aussi. La maîtresse nous mettait souvent des disques. Et effectivement, je me souviens d'avoir vraiment eu peur à ce moment-là. Pas chez moi, mais à l'école.
Vous n'étiez peut-être plus dans le cocon protecteur.
Ça doit être ça.
donc là, le loup vous a vraiment fait peur. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous étiez une voleuse. Je crois qu'il vous est arrivé quelque chose dans un train.
Ah oui. Alors, je prends beaucoup le train. Vraiment. Hein. Là, je rentre
trop,
à Clermont-Ferrand. Ensuite, je pars à Munich. Ensuite, je retourne dans mes ateliers de banlieue parisienne. Enfin, ça fait beaucoup de transport. Et oui, c'est vrai. J'ai plus d'une fois attrapé des paroles au vol. Et une fois, mais c'est comme s'il m'avait fait un cadeau. Cela dit, on avait 2 heures de retard. Hein. Moi, donc je ne pouvais plus aller travailler parce que ma lecture était évidemment annulée. Mais 2 heures de retard, donc il s'excuse pour... voilà. Et mesdames et messieurs, assurez-vous... Alors le cheminot, il n'était pas bien à l'aise, je pense. Assurez-vous de ne rien oublier. Alors le thé, je lui ai piqué tout de suite, tout ce que j'ai recopié dans mon carnet. Je me suis dit, je vais bien trouver à utiliser cette petite pépite dans un poème. Peut-être un poème d'amour, peut-être autre chose. Et finalement, c'est le dernier poème de Vrouze et j'ai eu le prix Apollinaire. Et j'ai jamais retrouvé le cheminot.
S'il nous entend aujourd'hui.
Oui, voilà. Je lui dois quand même quelque chose.
Donc, n'hésitez pas à faire des liaisons dangereuses. Ça peut servir aux poètes. Voilà. C'est la morale de l'histoire. Quel est le dernier livre que vous ayez lu et que vous ayez envie de partager avec nous?
Alors, ce livre s'intitule « Diogène ou la tête entre les genoux » de Louis Dubos, aux éditions de La Mèche Lente de Vincent Dutoit, ancien libraire qui ne vendait pas de livres et qui est devenu éditeur. On va voir s'il veut faire un peu de publicité. Mais c'est vrai que... Alors, c'est sous forme de... Il se trouve que c'est Louis Dubos... était autrefois mon éditeur. C'est lui qui a publié les poèmes de Parevoir, qui ont été repris ensuite à la table ronde. Louis était éditeur au Des Bleus. Louis Dubos, c'est le Des Bleus, en fait. Ce sont ses, voilà. Et Louis est philosophe, poète, philosophe et jardinier, grand jardinier. Et donc, il nous donne son expérience avec le jardin potager. C'est vraiment une expérience Diogène. Hein. Diogène ou la tête entre les genoux. Et on a le jardinier qui montre son derrière parce qu'il est en train de repiquer ses plants de poireaux ou je sais pas quoi. Et c'est vrai que c'est réjouissant sous forme d'abécédaire. Hein,
mais c'est parfait pour le printemps, ça.
C'est tout à fait. Je viens de le lire. Vincent Dutoit, qui est éditeur, ancien libraire qui ne vendait pas de livres.
J'aime beaucoup la formule.
Il me l'a offert. Oui. Donc j'espère qu'il
libre en tant qu'éditeur. Cette formule.
Édition La Mèche Lente, si vous avez l'occasion. Le livre est magnifique en plus. Il est petit, il se transporte bien. Et puis c'est vraiment... J'aimerais bien un petit truc. Ben, le myosotis, il y a un myosotis, il est tout court. Oui. Voilà, le myosotis.
Un peu de bleu dans notre grisaille post-hivernale.
Le myosotis dresse au printemps ses petites fleurs bleutées comme des sourires de libellules. Vergiss mein nicht, murmure à l'oreille de l'escargot le premier agrillon avant de regagner son îlot de roseaux dans la mare toute proche. Roseau, c'est moi. Vergiss mein nicht, c'est forget me not, c'est le nom du. Le myosotis, la fleur, ça veut dire ne m'oublie pas. Ouais. Et l'agrillon, c'est la petite libellule bleue rayée noire. C'est magnifique. Hein.
C'est magnifique. Des sonorités, des couleurs. Oui, effectivement.
Merci,
c'est,
Louis, d'avoir écrit.
Merci, Valérie, pour la découverte.
Oui, pour cette petite pépite printanière en ce jour. Eh bien, c'est sur la pépite printanière que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos interrogations poétiques.
Merci, Valérie.
Et nous nous retrouvons le mois prochain dans Les Voix du Livre avec un nouvel invité dans les studios de BAC FM.